Enquête, instruction, tribunaux, condamnation. L'industrie du médicament devant ses juges. Bienvenue dans le podcast consacré aux grandes affaires de l'industrie pharmaceutique. Bienvenue dans Pharma Affairs.
Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de Pharma Affairs. Alors, à mes côtés, comme d'habitude, le docteur Martine Pérez, journaliste médicale. Bonjour Martine.
Bonjour.
Et maître Christophe Hénin, avocat du cabinet Intuiti au barreau de Paris. Bonjour Christophe.
Bonjour Jean-Yves.
Dans cette nouvelle affaire, pas de mort suspecte, pas d'hospitalisation d'urgence. Et pourtant, c'est une crise qui va affoler les autorités de santé et provoquer un véritable tsunami médiatique. Vous avez compris, nous allons parler de la nouvelle formule du Levothyrox, un traitement suivi par 3 millions de personnes en France et dont la formulation avait changé en mars 2017. Crise sanitaire pour les uns, crise médiatique sans aucun doute, et surtout, nous allons le voir tout au long de cet épisode, qu'il s'agit surtout là d'un vrai scandale de l'information, voire même d'une crise de l'information. Je reprends là le constat dressé par le docteur Gérald Kirzek, co-auteur d'un rapport sur l'information du médicament, commandé alors par Agnès Buzyn. Bonjour docteur Kirzek.
Bonjour.
Alors vous êtes médecin urgentiste, directeur médical de Doctissimo. On vous voit chaque matin dans Télématin, vous intervenez donc régulièrement. Merci d'avoir accepté cette invitation. Nous reviendrons tout à l'heure en détail sur votre rapport. Avant cela, je voulais simplement vous demander en quelques mots si vous avez le sentiment qu'aujourd'hui on a vraiment tiré toutes les leçons de cette affaire.
Non, bien sûr, et j'allais dire, la crise Covid a été un peu l'illustration de ce problème d'information. Il y a quelques éléments, quand on voyait le directeur général de la Santé égrener les chiffres des contaminations, voire des décès ou des hospitalisations, c'est un peu ce qu'on appelait de nos voeux avec un monsieur médicament. Là, ils ont repris un peu cette proposition, mais de manière, j'allais dire, très anxiogène. Nous, on la voulait plus à visée informative. Et puis, un double nom, parce que quand en 2023 va s'arrêter la formule alternative pour les patients qui ne pouvaient pas supporter la nouvelle formulation de Levothyrox. Donc, ils ont encore, jusqu'à fin 2023, une possibilité alternative. Mais fin 2023, elle s'arrête. Et donc, on voit qu'à quelques mois, on recommence les mêmes erreurs de communication et de manque d'information. Et finalement, les préconisations qu'on avait faites, nous comme d'autres, sont un peu restées lettres mortes.
Revenons donc, si vous le voulez bien, en 2017. En mars de cette année, l'Agence nationale de sécurité du médicament, la ANSM, adresse une lettre aux professionnels de santé. Cette lettre va passer assez inaperçue dans ce courrier. Elle les informe qu'une nouvelle formule du Levothyrox va être commercialisée et dans les mois qui suivent, tout va s'emballer. Docteur Martine Pérez, pourquoi l'agence a demandé au laboratoire Merck de changer la formulation du Levothyrox et pourquoi ce changement va-t-il très rapidement provoquer un vrai séisme ?
Alors tout commence, comme dans beaucoup d'affaires d'ailleurs, par des bons sentiments. L'agence demande au laboratoire Merck de modifier la formule pour permettre une meilleure stabilité de la teneur de la substance active pendant la durée de conservation du médicament. Donc, le laboratoire Merck réalise cela à la demande donc de l'ANSM. Il s'agissait de quoi ? Le dosage du médicament, la levothyroxine, n'a pas changé. On a en revanche modifié l'excipient. Le lactose de l'ancienne formule a été remplacé par le mannitol et l'acide citrique dont on a démontré que cela permettait d'avoir un médicament plus stable dans le temps. Et des milliers de personnes se sont plaintes de divers symptômes, pas très graves mais gênants dans la vie quotidienne. Et pourtant, le laboratoire Merck, avant d'officialiser le changement de formule, avait fait un essai clinique sur 200 personnes. Il avait testé l'ancienne formule sur ces 200 personnes, il avait testé la nouvelle formule sur ces 200 personnes et il avait montré qu'il y avait une bioéquivalence totale entre ces deux formules. Mais 3 millions de personnes prennent ce médicament, 204 personnes, c'est un petit échantillon, peut-être que l'essai n'avait pas été mené comme il fallait, et donc ça a déclenché un tsunami dont on peut parler.
Effectivement, et puis il faut savoir aussi que l'effet du Levothyrox monte quelques semaines avant, je dirais, d'agir. C'est-à-dire, on s'aperçoit au bout de 3 jours, 4 jours, 5 jours ou une semaine si effectivement ce médicament est actif et quels sont les effets indésirables. Docteur Kirzek.
Oui, c'est extrêmement compliqué avec ces médicaments qu'on appelle la marge thérapeutique étroite. C'est-à-dire que non seulement il faut un certain temps quand vous changez la posologie pour avoir les effets désirables ou indésirables, mais en plus la marge thérapeutique, c'est-à-dire la marge de sécurité, elle est extrêmement faible et on apprendra aussi que changer, mais c'est valable sur ces médicaments comme le Levothyrox, mais comme d'autres, parfois les génériques ne sont pas totalement bioéquivalents et les hormones thyroïdiennes font partie de ces médicaments où un tout petit chouïa va changer beaucoup de symptômes. C'est un peu l'effet papillon dans l'organisme des patients.
Et là, ça va toucher effectivement beaucoup de monde, des centaines de personnes. Il va y avoir un véritable mouvement de panique, hein, puisque les réseaux sociaux, évidemment, s'en mêlent. Le ministère de la Santé comprend pas ce qui lui arrive. Il annonce une trêve à un moment donné en disant, bon, on va retourner momentanément avec l'ancienne formule. Bon, tout ça change pas grand chose. L'arrivée sur la scène médiatique, les personnalités populaires, je vais citer Annie Dupérez, n'est-ce pas, qui s'érige tout à coup en passionnariat de la cause des patients. Bon, Annie Dupérez, c'est quelqu'un de très connu. Alors évidemment, elle fait tous les plateaux de télé. Le ministère de la Santé se sent complètement désemparé. Il est obligé de réagir. Et Agnès Buzyn va le faire sur RTL le 11 septembre 2017. Je vous propose tout de suite de réécouter la ministre de la Santé.
Il y a certainement des personnes qui ont des effets secondaires, qui sont liées à un changement de formulation. Il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de complot, il n'y a pas d'erreur. Il y a eu un problème d'information des malades. L'information n'est pas descendue et donc les patients se sont retrouvés surpris d'une formulation qui avait changé et qui, pour certains, donnait certains effets secondaires. Beaucoup de ces effets secondaires sont liés à des difficultés à redoser correctement de l'évothyrox, mais il s'estompe quand on arrive à bien doser le traitement.
Pas de complot, explique Agnès Buzyn, pas de fraude. Pourtant, la crise est réelle. On voit même des scènes de violence dans les pharmacies. Ça atteint quand même des proportions importantes. Comme l'explique ce pharmacien de Bordeaux, c'est au micro d'Europe 1.
C'est très complexe, c'est ce que les gens ont un petit peu de mal à comprendre. Celui qui vient d'arriver vient d'Allemagne. On en a en plus une quantité limitée. Alors qu'on a annoncé à grands cris qu'il y en aurait pour tout le monde. Et finalement, nous, je vois sur la quantité qu'on a reçue, on en a eu 7 pour à peu près 300 patients.
7 boîtes.
Mais j'ai des confrères qui n'ont eu aucune. Et surtout, on n'a rien à donner en retour à nos patients. On m'a accusé il y a quelque temps d'être de mèche avec les médecins, de leur cacher la vérité, de mèche aussi avec les laboratoires, alors qu'au départ, on était au courant de rien. Et ça n'arrête pas, puisqu'ils font le tour des pharmacies pour savoir s'ils ont tel ou tel dosage en stock, tel ou tel médicament, de leur mettre de côté. Si on ne le fait pas, nous sommes des meurtriers, parce qu'on ne pourrait pas les soigner. C'est aussi une des raisons du ras-le-bol, parce qu'on a eu à faire face à tellement d'agressions verbales. On ne va pas laisser tomber nos patients. On essaye de les rassurer. Là, j'ai encore eu quelqu'un qui a bien compris que ça allait manquer, mais elle a fait l'amalgame avec son lévothyrox actuel. Me disant « je veux pas mourir », c'est très tendu. Ouais.
Et parallèlement, la machine judiciaire est évidemment lancée. Des milliers de plaintes sont déposées, alors au parquet de Marseille, à Toulouse, à Paris, un peu dans toute la France. Maître Christophe Hénin, qui est visé par ces plaintes et pour quel motif ?
D'un point de vue strictement juridique quand même, rappelons Jean-Yves, comme le disait Martine, que c'est pas la société Merck, hein, qui de sa propre initiative a changé la formulation du lévothyrox. Ça a été imposé par l'Agence nationale du médicament, la ANSM, qui en mars 2017 a demandé le changement de cette formulation. Alors, on disait, le docteur Kirzek disait que c'est un médicament assez sensible, de marge thérapeutique étroite, et donc ce changement de formulation aurait créé, a créé, des effets indésirables nouveaux, asthénie, céphalée, fatigue, crampes, vertiges, douleurs musculaires, articulaires et troubles du comportement. Donc tout ça a été un peu regroupé et plus de 32 000 patients ont procédé à un signalement d'effets indésirables. 10 000 victimes supposées ont porté plainte dans les commissariats et les gendarmeries. Donc dès l'automne 2017, en réalité, le pôle santé du parquet de Marseille a été saisi et des perquisitions ont été menées au siège du laboratoire à Lyon, mais aussi au siège de l'Agence nationale du médicament à Saint-Denis. En mars 2018, un juge d'instruction est désigné, et avec le concours de plusieurs associations, plus de 100 constitutions de parties civiles, c'est beaucoup. Le 18 octobre 2022, Merck est mis en examen pour tromperie aggravée. C'est le tour de l'Agence nationale du médicament le 9 décembre 2022, et l'instruction se poursuit. Elle se poursuit sur 3 autres chefs d'accusation, la mise en danger de la vie d'autrui, l'homicide involontaire et les blessures involontaires.
Donc là, effectivement, on recherche le coupable. Au ministère de la Santé, Agnès Buzyn essaye. Alors, est-ce que c'est pour ouvrir un autre front, en disant, bon, j'ai entendu les patients, je les ai reçus, elle a reçu Annie Dupérez, et elle comprend très bien qu'il y a une crise, non pas qu'une crise sanitaire, mais une crise de l'information. Et elle vous demande donc, Gérald Kirzek, avec Magali Léo, qui est président d'une association de patients, de rédiger un rapport sur l'information du médicament en France, car de toute évidence, cette information n'a pas marché. Alors, Gérald Kerzak, quand Agnès Buzyn vous demande ce rapport, le climat, il est vraiment explosif. Quel était l'objectif de ce rapport et que voulait la ministre?
Alors, c'était pas une mission ou un rapport d'expertise technique ou scientifique sur l'affaire du Levothyrox, puisque les affaires judiciaires qui sont en parallèle. En revanche, à partir de cette affaire du Levothyrox, elle décentre le problème et elle le généralise sur le médicament en général et sur, vous l'avez dit, une crise de l'information, une crise de la communication et surtout le manque d'anticipation, le manque de réaction ou une réaction inadaptée probablement, et on le verra dans le rapport, on pointera du doigt notamment la sous-estimation des signaux faibles des réseaux sociaux, la sous-estimation de nouveaux canaux de communication, et en face une espèce de machine ministérielle ou d'autorité de santé qui sont des institutions très figées, pas du tout dans la même temporalité que les réseaux sociaux ou que les médias. Et c'est cette discordance entre la temporalité, cette immédiateté des réseaux sociaux et des médias, amplifiée par Annie Dupéret ou par des phénomènes de pipolisation, qui sont les égéries des patients. Et en face, vous avez une machine institutionnelle avec une peur médico-légale, parce que on sait très bien que l'agence du médicament, dès qu'elle va dire quelque chose, ça pourrait être retenu contre elle, et il y a des affaires anciennes sur le médicament qui l'ont montré aussi. Donc il y a cette espèce de tétanisation et un espace-temps complètement différent avec une absence de réactivité. Et la ministre, ce qu'elle veut par cette mission d'information, c'est pouvoir justement accélérer les choses, anticiper, pouvoir réagir pour les prochaines crises.
Effectivement, et puis il ne faut pas oublier qu'à cette époque, là je me tourne vers Christophe Hélin, on est encore dans l'affaire Mediator. Est-ce que ça a pesé aussi dans ce climat, Christophe Hélin ?
Oui, sans aucun doute, il y a eu un effet d'entraînement. L'effet d'entraînement, pour donner écho plutôt à ce que disait le docteur Kerzak, une accroche médiatique qui est le problème pour moi, et un déferlement médiatique qui s'ensuit, vraiment bande désorganisée, sans limite, sans contrôle, sans vérification. Alors, d'autres affaires avaient déjà donné lieu à ce déferlement médiatique, hein, les pilules de troisième et quatrième génération, les nouveaux anticoagulants, et finalement, ça s'est soldé par des cinglants échecs judiciaires pour les patients, précisément. Donc pour moi, c'est plutôt ce déferlement médiatique qui, aujourd'hui, mériterait d'être régulé, Jean-Yves.
Docteur Kerzak, vous aviez formulé plusieurs propositions à cette époque, parce qu'effectivement, quelque chose n'avait vraiment pas fonctionné, vous l'avez bien expliqué. Fondamentalement, qu'est-ce qui véritablement n'a pas fonctionné? Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi cette communication des ministères et des autorités de santé n'a pas été entendue?
Alors, il y a avant la crise et pendant la crise. Alors, le déferlement médiatique pendant la crise, on va y revenir, mais avant la crise, il faut parer la crise, il faut anticiper la crise. Et là, on a pointé clairement un dysfonctionnement, en tout cas une absence d'anticipation, une simple lettre envoyée au médecin traitant.
Qui est passée inaperçue
parce que les collègues médecins sont débordés. Une difficulté aussi à toucher les médecins. C'est-à-dire qu'on a été très étonnés que le Conseil de l'Ordre, par exemple, des médecins n'ait pas un fichier, soit obligé de faire appel à des prestataires extérieurs pour pouvoir toucher les médecins. On sait que le système d'information de la Sécurité sociale pouvait cibler les patients, cibler les prescripteurs. Ces canaux n'ont pas été utilisés. Donc, du coup, absence d'anticipation et d'accompagnement d'un changement qui allait poser problème dans le sens où le volume de patients était important. Et donc, un minime effet secondaire sur un médicament à marge thérapeutique et droite, sur un volume de patients important, ça faisait un cocktail un peu détonnant. Et donc, ça aussi, ça aurait pu être entendu et anticipé. Deuxième chose, absence de prise en compte des signaux faibles. Je le disais, mais les réseaux sociaux sont maintenant un canal de communication avec immédiatement une ampleur, un effet boule de neige qu'on ne peut pas maîtriser. Et ça devient aussi une source d'information des journalistes. Et c'est ce qu'on pointait dans le rapport en disant, à partir du moment où on a ces signaux faibles, soit ils sont pris en compte par l'institution et il y a une réaction qui est faite. On apporte une réponse, conférence de presse, un monsieur médicament, on avait proposé un monsieur ou un madame vigie médicament, par exemple. Ça n'a pas été fait parce qu'encore une fois, l'institution est beaucoup plus lente, le circuit de décision hiérarchique est très lourd, l'épée de Damoclès judiciaire, etc. Donc tout ça a contribué à ce que la machine n'a pas pu répondre en face. Et donc au milieu, entre les réseaux sociaux, le grand public, une détresse des patients, vraiment une détresse sur tous les symptômes qu'on a pu évoquer. De l'autre, une machine inerte, très lourde, eh bien vous avez la presse. Et la presse va se servir des réseaux sociaux comme une source potentielle. Et là où je rejoins Maître Bertin, c'est que vous avez effectivement des journalistes qui n'ont pas, et on le pointe dans le rapport, une formation scientifique qui permet de filtrer, qui permet de contextualiser, qui permet de dire, là on est sur un cas particulier, sur du sensationnalisme, mais on va peut-être aller chercher chercher une solution. Non, on essaye, et c'est la machine aussi médiatique, hein, on essaye de faire de l'audience, on essaye de faire du buzz avec, tout en essayant de rendre service évidemment aux patients. Et voilà pourquoi il y a cette espèce d'emballement. Et la formation scientifique, finalement, elle est assez faible. Les journalistes, on le voit, il y a peu de filières scientifiques. Il y en a une à Lille. Alors, il y a quelques exceptions près.
Docteur Martine Pérez
en est un bon exemple. Mais finalement, pendant le Covid, on a vu exactement la même chose.
On va revenir sur le côté médiatique. Docteur Martine Pérez, effectivement, comme le dit Gérald Kirzek, la formation des journalistes sur le plan santé est quand même assez faible en France. Est-ce que ça a joué, selon vous, un rôle aussi important?
Non, parce que je pense que c'est difficile d'aller contre les grands mouvements de désinformation médiatique. Et quand on voit l'affaire Raoult et l'hydroxychloroquine, eh bien, on se rend compte qu'il a imprégné toute la société française, y compris des médecins, avec cette histoire d'hydroxychloroquine, alors que manifestement, l'hydroxychloroquine n'a jamais été un traitement du Covid. Et donc, quand il y a un grand mouvement médiatique de désinformation, qui est aussi soutenu par un certain nombre de médecins, et pas des moindres, on arrive à des situations extrêmement confuses et complexes à gérer.
Oui, mais le journaliste aurait, et moi j'ai cette double casquette, un peu médecin et journaliste aussi, on a ce rôle quand même de filtre, soit de caisse de résonance, soit de filtre.
Mais c'est
dans l'affaire hydroxychloroquine, ça a été une caisse de résonance.
J'ai une longue carrière de médecin et de journaliste, et il m'est arrivé souvent d'être à contre-courant d'un certain nombre de positions médiatiques. Eh ben, j'ai eu du mal vraiment à me faire entendre. Donc, c'est pas parce que
Parce que vous étiez en minorité.
Oui, voilà, parce qu'on était en minorité. À l'époque, je travaillais au Figaro. Je crois que j'avais une petite notoriété. Mais même, c'est très compliqué d'aller contre un énorme mouvement médiatique qui emporte tout sur son passage. Et si vous faites entendre une tonalité discordante, il y a juste, je voulais rajouter un petit mot. Il y a quelques semaines, la Haute Autorité de Santé a enfin publié un rapport sur la prise en charge des dysthyroïdies et la prise en charge des hypothyroïdies pour laquelle ce fameux médicament, le lévothyrox, était indiqué. 3 millions de personnes qui prennent des substituts d'hormones thyroïdiennes, c'est pas normal. Ils ont enfin expliqué aux médecins, il y a trop de prescriptions. Et pourquoi les médecins prescrivent-ils ces hormones thyroïdiennes? D'abord parce que les femmes, elles arrivent, elles disent « je suis fatiguée, j'ai envie de maigrir ». Pof, on vous colle des hormones thyroïdiennes, on sait que ça peut contribuer aussi à faire perdre quelques kilos. Mais il y a plein de copines qui m'appellent et qui me disent « tu ne voudrais pas me donner un peu d'hormones thyroïdiennes ?» Enfin, voilà, on est arrivé dans une situation totalement délirante et là, Haute Autorité de Santé vient de faire un rapport que je trouve extrêmement bien fait et qui demande en particulier aux médecins généralistes de ne pas se précipiter face à un petit dosage parce qu'il y a des fluctuations, de bien vérifier que la prescription est justifiée et d'attendre un peu parce que les symptômes peuvent être passagers et peuvent évoluer.
Mais il est difficile de faire front, comme vous dites, à la vague médiatique. Et à la vague...
Oui, et c'est d'autant plus difficile, et Martine a totalement raison, on parle, et l'OMS parle maintenant, de syndrome de détresse psychocorporelle. C'est-à-dire qu'il y a des vrais symptômes qui parfois sont surtraités par les médecins parce qu'on aime bien avoir ce réflexe dont on fait une ordonnance, on prescrit, etc. Mais surtout, on est dans une vraie détresse psychocorporelle. Il y a des vrais symptômes, mais il y a aussi une vraie détresse psychique. Les deux s'entraînant les uns les autres avec des symptômes très subjectifs, difficiles à appréhender pour les médecins, difficiles à quantifier. On n'a pas un test hormis le dosage de la TSH, mais c'est très compliqué. Quelqu'un vous dit « je suis fatigué » ou « j'ai des crampes » ou « j'ai des maux de tête », etc. Il n'y a rien qui objective. Et donc ça, avec la caisse de résonance médiatique qui s'est emballée, ça c'est une certitude, c'est très difficile à arrêter pour les professionnels de santé. D'autant, et ça c'est un vrai problème dans cette crise de l'information, que eux-mêmes, les professionnels de santé, découvraient les informations dans le Parisien ou sur les ondes.
Et alors je voudrais vous faire écouter l'intervention du professeur Philippe Bouchard. Philippe Bouchard est endocrinologue, il est membre de l'Académie de médecine. Il était au micro de Christophe Ondelat sur Europe 1 le 27 novembre 2017 et il montre très bien la corrélation entre les médias et les plaintes.
En 2007, il y a 10 ans, les Néo-Zélandais ont procédé à un changement similaire du lévothyrox. Ils ont modifié le lactose et remplacé par la cellulose. Et au lieu de le faire fabriquer au Canada, et GlaxoSmithKline, l'autre compagnie qui le fabrique, a fait fabriquer le produit en Allemagne. Ça a suscité en Nouvelle-Zélande une augmentation des plaintes des patients multipliée par 2000. Donc un scandale sanitaire. Et il y a des journaux qui ont accusé le gouvernement néo-zélandais et le laboratoire SmithKline d'avoir créé une crise, une nouvelle maladie en changeant cet excipient. Alors les médecins néo-zélandais, qui est un pays où la médecine est d'excellente qualité, ont très bien observé le phénomène. Et ils ont montré et publié dans le BMJ, un très très bon journal, deux articles dont l'un souligne que le nombre de plaintes vis-à-vis de ce nouveau lévothyrox à l'époque, en 2007, était directement associé au nombre d'émissions de télévision. Et il y a un synchronisme dans le temps qui est absolument clair et démontré. Et d'ailleurs, en Nouvelle-Zélande, 6 mois après l'introduction, les plaintes ont définitivement disparu.
Ce qu'explique bien Philippe Bouchard, c'est qu'il y a une corrélation, un lien presque de cause à effet entre le pouvoir des médias et puis les plaintes qui vont être déposées. C'est un petit peu votre analyse, Gérald Kerzek ?
Alors, c'est une partie de l'analyse, mais ça ne veut pas dire qu'il faut dire aux patients ça n'existe pas, parce que les symptômes, les patients ou les patientes, ils ou elles les ont, ces symptômes-là. Donc ça ne veut pas dire c'est dans votre tête, vous voyez, parce que pendant des années, on a dit c'est dans votre tête, etc. C'est plus compliqué que ça. Et quand je parle de détresse psychocorporelle, c'est un vrai syndrome qui nécessite d'avoir un diagnostic, d'abord d'éliminer d'autres causes, ensuite d'avoir un diagnostic positif et de prendre en charge de manière multidisciplinaire. On a exactement le même phénomène, par exemple, avec ce qu'on appelle les Covid longs. Les Covid longs où on a du mal quand même à mettre dans un cadre très précis, avec des examens qui sont souvent normaux et pourtant des symptômes qui sont très prééminents chez les patients et les patientes.
Alors, est-ce que tout cela, justement, justifie une action, je dirais, devant les tribunaux? Parce que, comme vous l'expliquiez, Christophe Hénin, il y a eu des milliers de plaintes, il y a eu des condamnations. Un maire qui était condamné à payer plus de 3 millions d'euros en mars 2022 à 3300 utilisateurs du Levothyrox. Au plan pénal, on a eu cette mise en examen pour tromperie en octobre 2022. La NSM également mise en examen. Est-ce que toutes ces décisions de justice vous semblent cohérentes et logiques, Maître Hénin ?
Alors, permettez-moi de revenir justement sur ces décisions de justice d'abord. Celle au plan civil du 16 mars 2022 qui condamne le laboratoire Merck, qui, encore une fois, n'est pas à l'initiative du changement de formulation. Il change aussi son conditionnement et sa notice, validée par l'Agence de sécurité du médicament. Mais malgré cette validation, et c'est une première hein, quand même en la matière, le laboratoire est condamné. Pourquoi ? Pourtant, les deux excipients changés sont bien dans la notice, mais ils ne sont pas assez visibles. Alors, c'est un peu spécieux, je trouve. Quelle est la visibilité ou le millimétrage de la visibilité pour les patients? Ça n'a pas empêché la Cour de cassation de valider l'interprétation du juge du fond et de faire condamner le laboratoire pour des caractères trop petits, à la fois dans la notice et sur le conditionnement. Alors, vous l'avez dit, ça coûte au laboratoire 3,3 millions d'euros pour un peu plus de 3 000 patients. Et les affaires continuent de façon, j'allais dire, spécieuse ou innovante. Hein, c'est selon et de quel côté l'on se trouve. Mais d'autres actions ont été engagées, demandant 1 milliard de réparation au laboratoire Merck, à placer dans une fiducie, attendant pendant 5 ans toutes les plaintes, et le reliquat étant reversé au plus près des associations de patients. C'est assez innovant.
Je sens dans votre ton quand même une certaine ironie par rapport à toutes ces décisions.
C'est un peu ironique, quelque part. Vous êtes quand même condamné pour une initiative que vous n'avez pas prise. Et quelque part, ça choque toujours l'avocat que je suis. Ça n'a pas... La Cour suprême n'en a pas été blâmée, mais je trouve ça particulièrement choquant pour ma part. Et au plan pénal, on l'a vu tout à l'heure... Les affaires sont en cours. Il y aura un procès dans quelques années.
On peut pas parler.
La
ministre Buzyn disait il y a pas de faute, il y a pas de complot. C'est vrai qu'il y a pas de faute intentionnelle, il y a pas de. Et si jamais il y a une responsabilité, et il y en a une, c'est ce manque d'anticipation. Elle est co-responsable. C'est-à-dire qu'il y a une co-responsabilité de l'administration, du laboratoire. Le laboratoire, il peut pas communiquer auprès des professionnels de santé comme ça. Il le fait toujours encadré par la tutelle, la NSM. Et la meilleure des preuves, c'est que d'ailleurs, les médecins ont été informés par une lettre rédigée par le laboratoire sur en tête du laboratoire. Ce qui est peut-être un problème parce que ça a peut-être minimisé, on reçoit beaucoup d'informations et celle-ci est passée un peu à la trappe. Une information plus officielle, c'est là où on pourrait pointer la co-responsabilité de l'État dans cette affaire-là, une information avec une double, et on l'avait préconisé dans le rapport, une double en tête aurait peut-être été intéressante. C'était une des propositions parmi toutes celles qu'on avait
faites. Parce que là, effectivement, on cible tout de suite le laboratoire Merck comme étant l'auteur de changement de formulation. Alors, comme vous l'expliquez très bien, Christophe Hénin, il ne l'est pas. Mais on retrouve là tout de même la problématique de l'information et de la communication des laboratoires vers les patients. Une communication impossible, elle est organisée et contrôlée par les pouvoirs publics.
Alors, oui, mais impossible parce qu'interdite, interdite directement.
Oui, mais tant mieux qu'il y ait un contrôle quand même de l'État, parce qu'on peut pas se permettre d'avoir un acteur privé qui communiquerait directement avec les patients. Ça a été un grand débat parmi la mission où il y avait des pharmaciens, des médecins, on a auditionné énormément de personnes. Certains prônaient justement une communication directe et cette levée de l'interdiction de communication entre le laboratoire et le grand public. On a plutôt préconisé d'avoir une, de même que je parlais, une co-responsabilité, une co-décision, qu'on puisse avoir l'État, qu'on puisse avoir un comité du médicament qui se réunisse de manière souple, de manière régulière, mais souple, c'est-à-dire quand il y a un début de crise, que tout le monde puisse se mettre autour de la table. Laboratoire, association de patients, les autorités, l'institution, les sociétés savantes. On a été très étonnés que les sociétés savantes, notamment d'endocrinologie, qui sont les spécialistes de la thyroïde, ne savaient pas à qui s'adresser. C'est-à-dire qu'ils toquaient en disant « on voit qu'il se passe quelque chose », ils toquaient à l'NSM, il n'y avait personne qui leur répondait. Donc on voit bien qu'il manque plutôt un circuit d'information déjà en interne, avec tous les acteurs réunis, pour pouvoir avoir un message et porter un message auprès des professionnels et des patients. Parce qu'il y a vraiment ces deux problèmes de communication et d'information. Les professionnels n'étaient pas informés. Pharmaciens, médecins, médecins spécialistes, c'était très compliqué. Ils n'ont pas eu l'information. Et si on devait recommencer, ça recommencerait pareil, malheureusement, parce qu'il n'y a pas plus de canaux d'information. Et les patients n'étaient pas informés non plus.
Martine Pérez.
Oui, la seule chose qu'on aurait pu faire, on savait depuis longtemps que les génériques des médicaments de la thyroïde et des médicaments de ces médicaments-là ne fonctionnaient pas. Ça perturbait trop la biodisponibilité du médicament. Et peut-être qu'on aurait pu être un peu plus prudent. Moi, je considère qu'effectivement, les choses ont été relativement bien faites, mis à part ces deux problématiques d'information. Mais c'est vrai que vu les antécédents de la problématique des génériques de ces médicaments contre l'hypothyroïdie, serait justifié, en particulier de la part de la NSN, un certain nombre de mesures de précaution qui n'ont peut-être pas assez été prises.
Les autorités de santé n'ont pas joué leur rôle, Christophe Hénin, c'est ce que vous dites.
Et non, ils n'ont pas joué leur rôle, mais si vous me permettez de paraphraser Paul Valéry, je dirais que la recherche des responsables amuse toujours le peuple. Mais ils le dispensent de faire les choses difficiles que ce peuple pourrait attendre de voir accomplies ou résolues. Alors quand même, les choses difficiles dans cette affaire, c'est la réparation des patients. Et ça, on en a très peu parlé au cours de notre podcast aujourd'hui, mais comme pour toutes les autres difficultés, faisons confiance à la justice, car elle saura accomplir la réparation des patients.
Je voudrais simplement vous demander, aujourd'hui, on a 3 millions de personnes qui continuent à prendre du lévothyrox. C'est beaucoup, comme vous l'expliquiez, docteur Martine Pérez. Est-ce que, alors ils prennent du lévothyrox, ou ils prennent le thyrox, hein, l'ancienne formule. Est-ce que, docteur Kirzek, docteur Pérez, vous avez le sentiment que la crise est terminée?
Que ça soit pour l'affaire du lévothyrox ou pour d'autres médicaments, malheureusement, les circuits d'information n'ont pas changé. Donc, je crains que s'il y avait un autre changement de formule, les circuits d'information auprès des professionnels ou du grand public, les choses, finalement, se passeraient exactement de la même manière. Sans paraphraser Paul Valéry, c'est Michel Onfray qui dit « à chaque victime, il faut un bourreau ». Et c'est vrai qu'on est dans une société où dès qu'il y a une victime, ou qui se sent victime, c'est toute la difficulté, c'est-à-dire qu'il y a un préjudice ou pas, mais en tout cas que la personne a l'impression d'avoir un préjudice, il faut trouver un responsable, il faut trouver un bourreau.
Martine Pérez.
Chaque crise sanitaire a une histoire naturelle et une évolution naturelle. Le Mediator, ça a pris 5, 6 ou 7 ans, mais ça, c'est, finalement, on n'en parle plus, on en parlera sans doute plus beaucoup. Eh bien, pour le lévothyrox, c'est pareil. Il y a une histoire naturelle. Et moi, je pense qu'on est à la fin du processus de cette affaire. D'abord parce que on a dit à peu près tout dans cette affaire, mais il y aura sans doute d'autres affaires sanitaires parce qu'on voit que c'est un perpétuel recommencement.
Et donc, il y aura bientôt d'autres nouveaux podcasts sur ces affaires pharmaceutiques. Merci beaucoup, maître Christophe Hénin. Merci beaucoup, docteur Martine Pérez. Et merci encore, docteur Gérald Kirzek, d'avoir répondu à cette invitation. Et donc, à bientôt pour de nouvelles affaires et de nouveaux épisodes de Pharma Affaires.